Sport. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans les tribunes de Mondial Sport, ambiance des grands soirs pour parler des chocs en stock sur les pelouses européennes de football, du Cameroun qui s'attend à un accueil électrique pour ses lions indomptables locaux envoyés au CHAN en Algérie. Avant le Mondial de handball, on prendra aussi des nouvelles des handballeurs égyptiens, plus que jamais poil à gratter après leur quatrième place au JO de Tokyo. Et puis notre invité a lui aussi brillé aux Jeux Olympiques, mais à 37 ans, il est aujourd'hui en bout de piste. L'athlète français Mayedine Mekissi enlève son maillot et cette fois, c'est définitif. Entretien en fin d'émission avec un homme qui a collectionné les médailles et les facéties. Mondial Sport avec David Brocou et Hélène Avril en chef d'orchestre. C'est parti. Et d'abord, comme promis, le foot européen, plus précisément le football espagnol avec la 16e journée de la Liga et la première grosse affiche de cette année 2023 à Madrid. L'Atlético qui reçoit le FC Barcelone sous les yeux de Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
L'Atlético et Barcelone opposés donc dans ce choc et pour l'instant à 20 minutes de la fin de cette rencontre, alors qu'on entend derrière vous le bruit des coursives du Wanda Metropolitano, Pierre, à 20 minutes du terme de cette rencontre, c'est le Barça qui est devant avec le but d'Ousmane Dembélé.
Oui, 1-0, 72 minutes de jeu, but de Ousmane Dembélé, vous le disiez, le Français qui est venu finir un superbe déboulé de Pedri qui se joue de 3-4 joueurs de l'Atlético. Ce dernier réussit à faire une passe pour Gavi qui dévie pour Ousmane Dembélé. Plat du pied sécurité, tir croisé. Et donc on en reste là pour le tableau d'affichage, en tout cas, dans une rencontre pas forcément très très agréable à regarder. Il n'y a pas beaucoup de jeux par rapport au match, par exemple, de hier entre le Villarreal et le Real Madrid. L'Atlético qui tente beaucoup, même si on est dans un temps fort du Barça là, à l'heure où je vous parle. L'Atlético qui tente beaucoup, mais ne trouve pas les filets par imprécision ou parce qu'il y a Ter Stegen. Au vu du match, c'est en tout cas un très bon résultat pour le Barça qui prendrait seul la place de leader de la Liga, et alors qu'ils n'ont pas leur attaquant de pointe, Lewandowski, suspendu pour 3 matchs. Attention, parce qu'avec cette victoire, avec la victoire pardon, du Real Betis et de la Real Sociedad cet après-midi, l'Atlético sortirait donc de la zone de Ligue des Champions, Thomas.
Bon, il reste quand même 20 minutes, il peut se passer des choses, Pierre, dans cette soirée qui est aussi une soirée de retrouvailles pour 3 vice-champions du monde français, Antoine Griezmann, Jules Koundé et Ousmane Dembélé, le buteur donc, et les deux Barcelonais, Koundé et Dembélé, en mode équipe de France ce soir.
Oui, puisque Jules Koundé joue latéral droit. Alors, il a du mal à ce poste en équipe de France et il a un peu de mal aussi à ce poste avec le Barça. Offensivement, peu présent. Il fait quand même pas mal d'allers-retours, mais c'est pas très tranchant. Il est un peu comme son équipe, un peu en souffrance. Ousmane Dembélé peut-être moins défensif, qu'avec les Bleus. Vous me direz que c'est pas trop difficile. Alors oui, il marque. Là, il était dans un temps fort comme son club. Là, avant que vous m'appeliez, mais il a quand même pas mal de déchets, même si bon, bah, c'est déboulé sur son côté, le fait de repiquer là dans l'axe ou de repiquer dans la surface de réparation, ça reste quand même une de ses énormes forces, Thomas.
Antoine Griezmann, de son côté, pas en grande réussite dans la finition aujourd'hui, mais plutôt inspiré et surtout un Grisou qu'on retrouve un peu partout sur le terrain, comme lors du Mondial qatarien avec l'équipe de France.
Ouais, c'est l'essuie-glace. Il est partout. Il va aller jouer un ballon, essayer de gratter un ballon à Pedri, Gavi, harceler un Ansu Fati, alors que c'est pas du tout sa zone. Hein. C'est le Antoine Griezmann qu'on a vu à la Coupe du Monde, vous le disiez, mais qu'on connaissait quand même ici un petit peu. C'est un mec qui quand même a 3-4 poumons. Il aide son équipe comme il peut. Il aurait pu égaliser pour l'Atlético en première période sur une passe de Carrasco. Il se retrouve seul à l'entrée de la surface. Tire, mais c'est un super Ter Stegen. Seguin qui s'est déployé pour sortir la balle en corner. Griezmann, pas aidé par son compère en attaque, Joao Félix, le Portugais, il n'est pas très à l'aise. Trop de gris-gris, de jeux superflus. Il lui manque peut-être de la force physique aussi, mais il est inexistant. Lui qui est sur la rampe de lancement pour partir de l'Atlético dans les prochaines semaines. À noter la titularisation d'un petit jeune, Thomas. Il s'appelle Pablo Barrios, il a 19 ans. C'est plus jeune à jouer en Atlético-Barça de l'histoire de l'Atlético. Ancien du Real, il en est parti à 14 ans, ça peut arriver. Lui aussi, il a beaucoup de poumons. Un vrai bon numéro 10. Il est surnommé le président parce qu'il s'est déjà imposé aux yeux de Diego Pablo Simeone, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faudra reparler de lui, de cet Espagnol dont on commence pas mal parler ici.
Oui, c'est votre coup de cœur, le coup de cœur de la rédaction Chaperon, ce Barrios. Alors, le coup de cœur de la planète foot en 2022, c'était Karim Benzema, Ballon d'Or. Le Français a marqué hier pour le Real Madrid, mais le Real qui a cette mauvaise habitude de perdre en championnat son premier match de l'année civile, cette fois-ci contre Villarreal, donc la défaite de 2-1.
Oui, avec une défense aux abonnés absents, sans défense, c'est d'ailleurs le titre de la une de AS ce matin, sur le banc des accusés, un certain Ferland Mendy, c'est le nom qui revient en tout cas le plus dans les médias espagnols. Pourquoi ? Eh bien, il est à l'origine du premier but, en relançant plein axe un ballon, un peu dur. Quand on voit, c'est une critique un peu dure, moi je trouve, parce que quand on voit le match d'un Militao perdu dans son rôle de latéral droit, il a pourtant joué à ce poste avec le Brésil pendant la Coupe du Monde, mais il n'y arrive pas. Enfin, il avait vraiment du mal hier. Carlo Ancelotti, lui, ne cible personne en particulier. L'aspect défensif a été totalement négligé, selon l'entraîneur du Real Madrid.
Villarreal a mieux joué que nous. Donc, quand une équipe joue mieux, elle mérite de l'emporter. Ça n'a pas été un grand match de notre part, surtout sur l'aspect défensif. Dans leur camp, nous avons plutôt bien pressé, nous avons récupéré des ballons, nous avons essayé de lancer des contres. Dans notre moitié de terrain, on aurait dû faire mieux. Derrière, en défense et au milieu de terrain, il y avait trop d'espace. Ils nous mettaient des ballons entre les lignes, c'était ça le problème.
Sixième victoire consécutive, toute compétition confondue pour Villarreal. Ça va mieux pour les hommes de Quique Setién, ancien entraîneur du Barça d'ailleurs. Très beau match du sous-marin jaune qui a effectué un pressing constant lors de cette victoire face au Real, marqué par des erreurs d'arbitrage. Mais ça, bon, on y est habitué. Là, en Espagne, Villarreal, sixième de la Liga. Direction de l'Arabie Saoudite pour le Real Madrid qui jouera mercredi contre Valence, la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Où on retrouvera d'ailleurs aussi le Barça qui mène 1-0. Après 76 minutes de jeu, 78 pardon, minutes de jeu au Metropolitano à Madrid.
Merci beaucoup Pierre et on garde un œil bien sûr sur ce match Atlético Barça, sans oublier non plus de regarder ce qui se passe en Italie. 17e journée de Serie A, le Milan AC tente en ce moment de reprendre la deuxième place à la Juventus Turin. Les Milanais doivent pour cela battre l'AS Rome et c'est bien parti. Ils mènent 2-1 à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Devant en Italie, c'est toujours Naples qui est en tête. 4 points d'avance pour l'instant donc sur le Milan. Si le Milan venait à confirmer cette victoire, Naples qui a remis la marche avant après la défaite face à l'Inter en milieu de semaine. Succès 2-0 aujourd'hui sur la pelouse de la Sampdoria de Gênes. Victor Osimhen, le Nigérian, a marqué. 9e but de la saison en championnat. Pas de championnat en revanche en Angleterre. Au programme plutôt du week-end, le 3e tour de la Cup. Avec comme résultat marquant ce dimanche le carton de Manchester City face à Chelsea, 4-0, doublé pour l'Algérien Riyad Mahrez. De la Cup à la Coupe, notre spécialiste maison, Sofiane Amazian, déboule dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir Sofiane. Thomas, bonsoir à tous.
32e de finale donc de la Coupe de France, beaucoup de surprises hier, logique plutôt respectée aujourd'hui. Et l'un des gros cartons à mettre au crédit du Stade de Reims.
Et Thomas, la magie de la Coupe de France, vous le savez si bien, les surprises, les scores fleuves. Reims s'est régalé sur le terrain de Longplage, pensionnaire de Régional 1, c'est-à-dire la 6e division française. Victoire 7-0, de quoi redonner de la confiance à certains joueurs en manque de temps de jeu. À noter le doublé du jeune Martin Adlin, 19 ans, le néerlandais Kay Cyrus y était aussi allé de son doublé. Ajouté à cela, début de Zenelli, Flips et Guitane. Et voilà. voilà le Contillet.
Festival offensif également du côté en faveur de Lorient face à la Châtaigneraie.
6-0, rien que ça. Thomas, les Merlus surfent sur leur belle dynamique en championnat. 6e de Ligue 1, 6 d'ailleurs. Un chiffre qui porte bonheur, fin de parcours donc pour les amateurs de la Châtaigneraie qui évoluent en Régional 1.
Toujours pas de surprise pour Toulouse, pour qui ça passe facilement également.
Ça passe même tranquillement pour Toulouse. Thomas, vainqueur 7-1 sur le terrain de Lannion. Ajaccio a dû batailler pour venir à bout de Jura Sud, équipe de National 2, victoire sans éclat de 2-1. Auxerre s'en est sorti in extremis au tir au but face à Dunkerque.
Un mot d'un ancien finaliste de cette coupe, un spécialiste, un petit poussé, le club des Herbiers. La finale donc en 2018 face au Paris Saint-Germain. Qui s'est qualifié pour les 16e de finale?
Et pourquoi pas, Thomas, réitérer l'authentique exploit d'il y a maintenant 5 ans. Le club situé près de Nantes est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse du stade Pontivien. Qualification également pour Chamalières, club de 4e division pour la toute première fois de son histoire. Et puis pour terminer, le tirage au sort évidemment des 16e de finale qui vient d'être dévoilé parmi les grandes affiches. OM Rennes, Brest contre Lens, Toulouse, Ajaccio. L'Olympique Lyonnais se déplacera du côté de Chambéry. Chambéry, tombeur cet après-midi d'Aubagne.
Merci Sofiane. Aubagne-Chambéry, match qui s'est déroulé dans un climat très particulier. 2 semaines après la mort de l'un des attaquants vedettes du club d'Aubagne, le franco-sénégalais Adel Santana Mendy, victime collatérale d'un règlement de compte par balle dans sa cité des quartiers nord de Marseille. Âgé de seulement 22 ans, très apprécié pour ses qualités humaines, Adel Santana Mendy était aussi un vrai bon espoir. À Aubagne, certains lui prêtaient même un destin à la Didier Drogba. Reportage, Yoram Meloul.
Philippe Tchanim Bouyamba est arrivé au FC Aubagne en début de saison, en même temps qu'Adel Santana Mendy. Les deux hommes jouaient déjà ensemble à Marignane l'an dernier et étaient très proches.
J'en ai pleuré 2 nuits. J'aurais toujours mal, je le sais. C'est vraiment un très très bon attaquant, un très très bon joueur. Honnêtement, il était vraiment hors norme.
Adel Santana Mendy était un joueur apprécié au club. Sur le terrain, juste avant le match, Belkacem Dali Amar, attaquant, habitué à jouer à ses côtés.
C'était un jeune, il avait 22 ans, qui voulait apprendre. C'était quelqu'un tout le temps là, à s'entraîner, à se battre, à écouter. Très gentil, très rigolo. Ça fait très très mal.
Adel Santana Mendy est passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il tente ensuite sa chance à l'étranger, en Angleterre et en Andorre, puis revient en France, à Marignane, où il est entraîné par Mohamed Sadani, l'actuel entraîneur d'Aubagne, qui a fait venir le jeune homme au club.
On avait des rapports de père à fils, voilà. Donc, des fois, quand on veut dire, on me tutoie. Et quand je l'engueulais, moi vous voyez, donc c'est rigolé, je le dis souvent aux joueurs, ça en rigole maintenant. Et c'est quelqu'un qui va manquer, c'est sûr, c'est sûr.
Les supporters créent rapidement un chant en son honneur et il est décrit comme un joueur attachant.
Toujours le sourire, jamais énervé, poli, respectueux, très bien éduqué par sa maman, alors que c'est des petits dieux qui habitent dans des quartiers difficiles, donc une bonne personne. Je pense que lui, il avait toutes les caractéristiques pour aller au-dessus. Hein. Force, technique, vitesse, puissance. C'est notre attaquant phare, hein, lui et Dali Amar. Dans la force et la puissance, on le comparait à Didier Drogba. Il devait encore progresser, hein, mais il avait quelque chose de Didier Drogba.
Le président Lionel Jeanningrot le voyait aussi partir plus haut, très rapidement.
C'est un garçon qui m'avait marqué dès le premier match où je l'ai vu. Il était en train de vraiment d'être sur la pente ascendante. Il venait de faire des matchs fantastiques. Et on sait qu'il était suivi par des clubs professionnels. Et certainement, on n'aurait pas pu le garder à la fin de la saison.
Adel Santana Mendy est une victime collatérale d'un règlement de compte. Mais la violence dans les clubs de la région, Lionel Jeanningrot y a déjà été confronté.
Les joueurs qui sont dans les clubs, en règle générale, ce sont des garçons qui sont issus de cités défavorisées. Et bon, c'est un peu l'ADN des clubs de football dans la région, malheureusement, on le sait. Hein. On essaie de les aider, de les encadrer, d'avoir un peu le côté paternaliste pour un peu les guider, leur apporter une certaine morale, un reste d'éducation, si on peut dire ainsi, voilà, de les aider au-delà du football.
En hommage à Adel Santana Mendy, il a retiré le numéro 29, celui du joueur franco-sénégalais. Yoram Meloul, Aubagne, RFI.
Le football en Afrique, maintenant nous sommes à 5 jours du coup d'envoi du premier grand événement de l'année sur le continent, le CHAN. Et ce seront bien sûr les hôtes du tournoi, les joueurs de la sélection locale d'Algérie qui ouvriront le bal face à la Libye, au tout nouveau stade Nelson Mandela d'Alger. Ambiance électrique garantie. De l'électricité dans l'air aussi, sans doute, trois jours plus tard, à 400 km de là, à Oran, quand les joueurs du Cameroun feront leur entrée en lice face au Congo. Attention, tension autour de ces Camerounais, les nouveaux meilleurs ennemis de l'Algérie. Souvenez-vous, ce fameux match de qualification pour la Coupe du Monde, remporté par les Lions Indomptables, des polémiques sur l'arbitrage, notamment jusqu'au dernier épisode, l'altercation au Qatar en pleine Coupe du Monde entre un influenceur algérien et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Bref, l'accueil promet d'être musclé et forcément ça fait causer. Fabien Essiane à Yaoundé.
Au camp Siglongkak, au centre de Yaoundé, une dizaine de jeunes et adultes échangent. Leur causerie porte sur la participation des Lions Indomptables locaux au CHAN en Algérie, un sujet qui a fait beaucoup parler au Cameroun. Onana Essono Joseph, le plus âgé parmi eux, pense qu'au-delà des tensions entre les supporters camerounais et algériens, nés de la récente rencontre éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le sentiment de fraternité entre les deux peuples finira par prendre le dessus.
Si nous sortons d'un populisme qui n'a pas de raison d'être, si nous respectons rien que nous sommes tous des frères africains et que nous devons jouer au football, le football servira d'instrument de liaison, d'instrument de partage d'une certaine africanité. Je crois que la raison va prévaloir et on oubliera tout ce qu'il y a eu avant.
Mathieu Yubi est un organisateur des voyages des supporters camerounais lors des compétitions internationales. Et pour ce CHAN, il n'a pas souhaité s'engager parce que...
Il y a un problème. Je ne pense pas qu'il était judicieux d'amener les Camerounais en Algérie. Amener donc des supporters là-bas courait un risque énorme. Parce que vous savez, le pluie algérien est très bouillant.
Les Lions Indomptables locaux sont néanmoins présents en Algérie, alors qu'une rumeur avait annoncé leur forfait il y a quelques jours. Côté supporters, les Camerounais vivant sur place seront dans les gradins. Le pays en compte quelques centaines. Ce qui fait dire à Patrick Movungu qu'au-delà de cette rivalité...
Ça n'entache à rien les relations entre les Algériens et les Camerounais.
Serge Asako est président d'une association de soutien aux Lions Indomptables. Il est catégorique et estime que le débat est clos et qu'il est temps de passer à autre chose.
Si les Algériens veulent faire de ça, une guerre, ça leur regarde. Mais nous, nous ne sommes plus là-dedans, nous on vise de loin.
Fabien Essiane, Yaoundé, RFI.
Voilà, en espérant que les débats au café portent plutôt maintenant sur le jeu des équipes de ce CHAN. On espère surtout voir des buts un peu plus que lors des derniers matchs de préparation. Encore un 0-0 aujourd'hui entre le Mali et l'Ouganda. Demain, le Cameroun justement doit affronter le Soudan. La Côte d'Ivoire sera opposée à la Mauritanie et le Sénégal défiera le Congo.
Mondial Sport sur RFI.
Il n'y aura pas de dernier tour de piste d'adieu au jeu à Paris à 37 ans. Mahedine Mekissi l'a annoncé cette semaine. Il raccroche les pointes, grand spécialiste des épreuves de demi-fond, du 1500 mètres au 3000 mètres steeple. Les lancers, Mekissi s'est construit en 15 ans de carrière l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français. 5 fois champion d'Europe. 2 médailles d'argent, 1 de bronze aux Jeux Olympiques, 2 de bronze encore aux Championnats du Monde pour compléter la collection. C'était ça. Mekissi, c'était aussi ce petit grain de folie, une fraîcheur, une franchise, toujours intacte, quand Frédéric Suto lui a posé ses questions. Et d'abord celle-ci, pourquoi arrêter maintenant ?
Je vais vous raconter une anecdote cette année. Je suis revenu à un niveau exceptionnel. Franchement, j'avais atteint un super niveau en entraînement, mais j'avais pas envie de courir en compétition. Ça m'est arrivé, je vous le dis à vous, j'ai jamais dit. J'étais engagé dans une compétition. Le matin, je me lève, tout ça, c'était le jour de la compétition. Je bois le café, je prends mon petit déjeuner, et je me dis, j'y vais pas. Ça m'était jamais arrivé, ça. Je dis, j'y vais pas, j'avais pas envie. Parce que je sais que pour gagner une course, pour se surpasser, il faut avoir envie. Quand t'as pas envie, en fait, t'es l'ombre de toi-même. Moi, j'ai toujours été guerrier, voilà, je donne tout. En fait, ce n'était pas la bonne image que je montrais. C'est-à-dire, j'allais en compétition, j'allais dans des compétitions à la fin de mes dernières compètes. Ben, je ne me battais plus, en fait. J'allais dans la compète, je faisais des bonnes performances, mais ce n'était pas mon niveau. Ça m'était égal de perdre, de me faire battre par d'autres coureurs. Alors qu'avant, non, je n'acceptais pas ça. Bah, c'est ça qui fait que bah, je me suis dit, bah, là, j'ai pris ma décision, je suis sûr de moi. Certes, c'est les Jeux dans 2 ans, mais ça ne m'intéressait plus d'être champion olympique, champion du monde. En fait, la course à pied, ce n'était plus mon moteur, c'est-à-dire en tant qu'athlète.
Si on regarde dans le rétroviseur, le palmarès Mayedine Mekissi, il est assez exceptionnel. 2008-2012, médaille d'argent aux Jeux en 3000 mètres steep. 2016, c'est la médaille de bronze. Des médailles également aux championnats du monde. Les grands rendez-vous, vous avez toujours été là. Alors, peut-être qu'au niveau mondial ou JO, il manque la médaille d'or, mais il y avait toujours un Kenyan qui allait quand même un peu plus vite, qui était un peu plus fort.
Voilà, 2008, il y a un Kenyan qui me bat. C'était Bernard Kipruto. 2012, le champion olympique en titre, je le bats. Mais c'est un autre champion olympique qui est quelqu'un moi qui gagne ce jour-là. Sachant qu'Ezekiel Kambo, je l'avais battu en 2008. En fait, c'est tout le temps, t'arrives à en battre, mais il y a tout le temps un qui arrive à sortir. Mais c'est comme ça, après, moi, j'ai toujours tout donné et j'ai toujours félicité le vainqueur.
Ils vous craignaient, les Kenyans, parce que vous étiez l'un des rares, si ce n'est le seul, durant ces 10 années au niveau européen, à pouvoir les regarder dans les yeux, quoi. À être toujours là quand la cloche retentissait au dernier tour.
Je sais qu'ils me respectaient beaucoup. Quand ils me voyaient, ils venaient me voir. Ils aimaient discuter avec moi, échanger avec moi. Il y avait un respect entre nous. Donc certes, il y avait un respect, mais la compétition, c'est autre chose. On se donne à fond et après, on rigole. Après, avec le recul, tu dis, les années, ils passent vite. Ça passe vite parce que Pékin, en 2008, c'était à 14 ans, 15 ans. C'est dingue comment ça passe vite, une carrière. Et... En tout cas, je regrette pas ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, ça aurait été la même chose. Il faut apprendre de ses erreurs pour devenir meilleur. Et le plus important, c'est de ne pas recommencer ses erreurs.
D'avoir enlevé son maillot dans la dernière ligne droite en 2014, quand vous gagniez le steep du championnat d'Europe, c'était une erreur ou ce sera à refaire, vous feriez la même chose? Parce que finalement, c'est l'une des images fortes de votre carrière. Hein. Vous gagnez la course, mais torse nu, le maillot, là, olé olé, mais disqualifié. Et puis 2 jours plus tard, vous remettez les choses au point en gagnant le 1500 mètres.
Maintenant, tout le monde connaît le règlement, alors que personne ne connaissait ce règlement. Vous savez, même quand on franchit la ligne d'arrivée, on n'a pas le droit d'enlever son maillot. Si c'est à refaire, ça, je le referai, comme je dis. Mais c'est comme ça qu'on devient meilleur. Moi, en tout cas, je sais que j'ai gagné. La course, je l'ai gagnée. Donc, le titre, ils me l'ont enlevé, mais les gens savent qui a gagné ce jour-là.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, durant votre carrière, Mayedine Mekissi, d'avoir la reconnaissance de l'opinion publique, reconnaissance médiatique que vous méritiez? Ou est-ce que vous avez souffert parfois d'un manque de considération? Je dis ça parce que en demi-fond, bon, il y avait Mehdi Bala, 1500 mètres, Bob Tari, 3000 mètres steeple, chouchou un peu du public, mais qui lui finalement n'a quasiment jamais été sur les podiums internationaux, alors que vous étiez là à chaque fois.
Bah moi, le public il m'apprécie, donc moi quand j'allais dans les stades, je suis aimé du public français. En tout cas, ils sont contents de me voir à chaque fois. Et moi, c'est pas un moteur moi, pour moi. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui raconte ma vie dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Moi, mon travail, moi, ce que j'aime, c'est courir, gagner des médailles, faire des grandes performances, rendre fière ma famille. La marque d'un champion, c'est préparer le jour J et répondre présent. En tout cas, moi, j'ai répondu présent et j'ai duré.
Comment vous allez transmettre cette passion, ce qui vous en reste? Vous disiez tout à l'heure, vous avez envie de partager avec les jeunes. Quel rôle vous voyez occuper maintenant dans l'athlétisme?
Moi, ce que je veux, c'est rester en contact du sport. Le sport m'a tout donné et je veux transmettre mon expérience, l'approche de la compétition, essayer d'aider les jeunes. Je sais que c'est difficile, mais si je peux apporter mon expérience, donner des conseils. Ce que j'ai aimé, moi, quand j'ai commencé, c'est parce que j'aimais voyager. Je ne suis pas quelqu'un qui voyageait beaucoup. J'étais issu d'une famille pauvre. Donc, grâce au sport, grâce à l'athlétisme, ça m'a permis de découvrir de nouvelles villes, de nouvelles régions, de nouveaux pays. Donc moi, c'est ça qui m'a attiré avant la compétition.
C'était ça le moteur? Une façon de sortir de chez soi, finalement?
Voilà, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est que je rencontrais de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, un autre milieu. Voilà, moi, j'ai grandi dans un quartier et grâce au sport, j'ai pu sortir, j'ai pu grandir en tant qu'homme. C'est ça qui m'a fait rentrer dedans. C'est-à-dire, j'avais des qualités de base, mais ce que j'ai aimé, c'est voyager. Le sport, il m'a aidé à me canaliser. Ça m'a éduqué, moi, l'athlétisme. L'éducation que j'ai eue grâce au sport, je vais l'avoir toute ma vie. C'est-à-dire la discipline, la rigueur, le sérieux. Quand tu es sportif comme ça, jeune, ça reste à vie.
Mayedine Mekissi qui va pouvoir profiter de ses premiers jours de retraité pour peut-être suivre à la télévision d'autres médaillés olympiques. Nicolas Karabatic et sa bande, les handballeurs français, à la conquête d'un septième titre aux Mondiaux organisés à partir de mercredi prochain en Pologne et en Suède. 32 équipes en lice comme favori naturel à sa propre succession, le Danemark. Et donc l'équipe de France qui, elle, rêve du doublé JO mondiaux 18 mois après le titre olympique à Tokyo. Les Bleus qui ont terminé leur préparation par une victoire hier à Orléans face à d'autres héros des derniers JO, les Égyptiens, battus de justesse 32-33 par les hommes de Guillaume Gilles. La preuve que les champions d'Afrique en titre s'annoncent encore comme les poils à gratter du tournoi. Christophe Diamzian.
Dans le superbe écrin de l'Arena Comet inauguré pour l'occasion, Bleu et Pharaon ont livré un spectacle digne de deux champions en titre. Des Français pleins de maîtrise et moins poussifs que face aux Pays-Bas mercredi, des Égyptiens accrocheurs sans jamais capituler, au point de faire douter leurs adversaires jusqu'à 30 secondes de la fin. Mais le sélectionneur tricolore Guillaume Gilles ne s'attendait pas à autre chose des vainqueurs des deux dernières CAN.
C'est une équipe qui continue d'avancer, qui est vraiment très, très solide à tous les postes. Il faut aussi se rappeler que ils ont joué sans leur meilleur arrière droit. Ils ont sorti leur meilleur demi-centre sur carton rouge avant la mi-temps. Donc c'est une équipe franchement qui est loin d'être à faire valoir. Et on le savait en allant les chercher pour matcher avec eux, qu'ils allaient aussi nous montrer les secteurs sur lesquels on peut être un peu fragile. Donc c'est ce qu'on attendait, hein, pouvoir faire un point.
Malgré la courte défaite, le test s'avère tout aussi concluant pour les Égyptiens. Tombeurs de la République tchèque trois jours auparavant, l'ailier Mohamed Sanad et ses coéquipiers vont rejoindre la Suède avec la confiance d'un outsider ambitieux classé dans le top 10 des deux derniers mondiaux.
Tout le monde attend une grosse équipe de l'Égypte. Hein. On a fait un bon championnat du monde 2021, bon JO. Donc on présente des belles performances, on est une équipe costaud. On a notre chance au championnat du monde, c'est ça. Il faut juste qu'on se bat jusqu'au bout et si on veut aller le plus loin possible au quart de finale, il faut qu'on finisse premier de la poule. Hein. Là, on prépare pour le premier match contre la Croatie. C'est une grosse équipe, donc il faut gagner ce match.
Objectif identique pour les Français, mais leur entrée en lice mercredi ne sera pas de tout repos face à l'autre pays hôte. Cette Pologne en quête d'une réussite qui la fuit depuis sa médaille de bronze du Mondial 2015 est soutenue par le bouillant public de Katowice, chaude ambiance en perspective, mais ce n'est pas plus mal finalement pour l'ailier Valentin Porte.
C'est bien de se mettre de suite dans le vif du sujet. Après, je n'ai pas souvenir d'avoir joué un match peut-être aussi compliqué sur le papier, un pays hôte, la Pologne d'entrée. Mais oui, je pense que c'est bien d'avoir sur les premiers tours comme ça des matchs qui peuvent de suite nous mettre dans la compète et pas nous endormir avec des matchs faciles et puis de se faire surprendre dès qu'on tombera sur une équipe un peu plus forte.
Vigilance immédiatement nécessaire donc pour la sélection de Guillaume Gilles qui n'a pas eu à se creuser la tête pour choisir ses 18 partants. L'infirmerie s'étant remplie bien avant et au fil de la préparation. Un groupe où la jeunesse de l'arrière Thibaut Briet et du gardien néophyte Charles Bolzinger côtoiera l'expérience du vénérable Nicolas Karabatic, 38 ans, qui fêtera avec ce mondial ses 20 ans en sélection.
Pologne-France sera donc mercredi prochain. L'Égypte, elle, démarre sa compétition vendredi contre la Croatie. Quatre autres sélections africaines sont présentes à ces mondiaux. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Cap-Vert. Ce mois de janvier qui sera décidément riche en événements sportifs, avec aussi dans un peu plus d'une semaine le premier grand chelem de la saison tennistique, l'Open d'Australie à Melbourne. Première levée dont sera privé, vous le savez, le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, blessé à la jambe. Naomi Osaka est absente elle aussi. Les organisateurs ont annoncé aujourd'hui son forfait sans plus de détails. En revanche, Novak Djokovic sera bien de la partie pour viser un 10e titre un an après le rocambolesque épisode de son interdiction de territoire. Les règles Covid ont changé en Australie. Les non-vaccinés peuvent entrer sur le sol australien. Il y est déjà, d'ailleurs, le Serbe, il y est bien même. Il a remporté tout à l'heure le tournoi d'Adélaïde. Victoire en finale aux dépens de l'Américain Sebastian Corda. Match très disputé, 6-7, 7-6, 6-4. Quelques secondes pour vous dire que ça y est, c'est terminé à Madrid où le FC Barcelone a remporté son match sur le terrain de l'Atlético 1-0. Le but de Dembélé, le Barça en tête de la Liga. Le Milan AC en revanche a été tenu en échec par l'AS Rome en Italie. 2 buts partout, voilà, c'est la fin de ce Mondial Sport. Merci d'être toujours fidèle au poste. Restez branchés sur RFI. Bonne soirée, bye bye.